Bonjour tout le monde. De retour avec Elisa, nous parlions évidemment au Super Bowl. Et comme vous le savez, Elisa et moi avons en commun une passion pour le ballon ovale. Voilà.
On s'est couché tard.
On s'est couché tard.
Toi et moi.
Le match est allé jusqu'à aux dernières 3 secondes. Hein. Et en tout cas, tout ça, ça dure plus que quelques heures. Là. On était rendu à 4h30 d'écoute. Voilà. Cela dit, hein, en parlant d'écoute, on vient d'entendre Birdland de Weather Report avec Jacob Pastorius et Joseph Zawinul, entre autres. Cela dit, Belgique, hein,
on commence là, à Belgique, hein. On commence voilà. En force, François. Donc, en Belgique, où de plus en plus de travailleurs en situation de handicap sont recrutés. En 2023, dans le secteur privé du pays, on avait un travailleur sur 369, donc 0,27% qui était concerné par un handicap physique ou un handicap intellectuel. Une hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Vous allez me dire que 0,27,
oui,
c'est pas beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est sûr que la manchette de dire que dans le marché privé belge, le pourcentage, la représentation des travailleuses en situation d'handicap augmente. Mais en même temps, c'est un peu gênant de dire qu'on passe de 0,24 à 0,27.
Oui, mais une augmentation de 15%, ça va être des taux, François.
On est content. C'est un pas dans la bonne direction. On va être positif. C'est un peu une question de verre à moitié plein ou vide, là. Mais comme on dit, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres.
Ben voilà, mais je suis quelqu'un de positif, François. Donc, hein, 15%, on va se tenir pour 15%.
C'est 15%. On s'aperçoit qu'en Wallonie, ça a plutôt été positif, également à la région de Bruxelles. Et là, on peut penser peut-être que l'influence institutionnelle des institutions ou des organismes supranationaux, peut-être que ça aide. Alors qu'en Flandre, on semble tirer de la patte. Quoi qu'il en soit, c'est bien qu'on en parle. C'est déjà une excellente chose et que peut-être ça encouragera d'autres démarches en Belgique pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Effectivement. Et on va en France, François.
Oui.
Comme d'habitude, en France, ça bouge beaucoup. On a quelque chose à dire à chaque semaine.
Ben oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'influence des Paralympiques, on dirait que...
Oui, entre autres.
Je pense que oui.
Oui, clairement, il y a une influence au niveau des Paralympiques. Là, Paris ne veut pas perdre la face devant le monde entier. Donc, clairement, ils essaient de s'améliorer au niveau de l'accessibilité et au niveau de tout ce qui touche à les personnes en situation de handicap. Et on parle d'un projet de résidence de l'accessibilité en France à la mairie du 20e arrondissement. Donc, on a un objectif qui est de faire donc savoir aux personnes, au grand public, de leur faire découvrir des compagnies qui travaillent pour l'accessibilité au niveau de la France. Donc, il y a plusieurs kiosques qui sont là pour permettre au grand public de comprendre un peu plus la réalité des personnes en situation de handicap.
Parce qu'ils ont une ambition de créer une ville 100% accessible. Et pour ça, donc, il y a différentes initiatives de mieux vivre avec les services publics chez soi et l'action citoyenne. Et donc, tous les projets dans le 20e arrondissement tournent autour de cette thématique-là. Et il y a, dans ce qu'on appelle la résidence de l'accessibilité, une variété d'initiatives, que ce soit des gens, une compagnie théâtrale avec des comédiens en situation d'handicap, des ergothérapeutes qui repensent l'autonomie à domicile, des ingénieurs qui construisent des GPS vibrants pour malvoyants, des gens en santé mentale qui accompagnent les aidants, ainsi de suite. Alors, c'est comme un pôle. Au lieu d'être un pôle industriel qui tourne autour de l'alimentation, ça tourne autour de l'accessibilité.
Oui, c'est un peu comme ce qu'on voit là, au Québec, François, avec les différentes maisons mais congrès d'habitation,
oui.
Et bon, congrès des voitures et tout ça. C'est un peu le même principe. Donc, effectivement, là, ça avait lieu cette semaine et ça encourage, en fait, les initiatives là, pour les personnes en situation de handicap pour les intégrer de façon formelle à la ville.
Et vous serez heureuse d'apprendre que c'est dans le 20e arrondissement, que situe le célèbre cimetière du Père Lachaise.
Ah oui, je...
Ah oui, c'est là où il faut aller pour...
Je pense ne pas endormir ce soir.
Non, mais au cimetière Père Lachaise, c'est réputé pour y avoir les sépultures de plein de gens connus, là, des poètes, des musiciens, des gens, des écrivains, des hommes politiques, des femmes politiques, ainsi de suite.
La prochaine fois que je passerai en France, je penserai à vous, François.
Oui,
j'irai
voilà.
Là.
Oui, tout à fait. Puis les gens font des pèlerinages et vont... Jim Morrison des Doors est là, d'ailleurs.
D'ailleurs, mon prochain pèlerinage sera là.
Ah, bon, parce que vous en parlez chaque semaine, alors. Hein?
Oui, voilà. Moi, le pèlerinage et les marathons, hein, c'est vraiment ma force.
Voilà, exact. L'Union européenne, on en avait parlé il y a quelques semaines, là, la carte européenne du handicap.
Oui, donc ce ne sera pas avant 2028, François. J'espérais que ce soit un petit peu plus tôt que
ben
ça.
Oui.
De la façon dont on en parlait, là, ça allait de bons traits, mais bon, finalement, 2028, donc on parle encore de 4 ans. C'est ce qui a été décidé donc le 8 février 2024 pour avoir en fait le temps de tout mettre en place. Donc on parle de la carte européenne du handicap, là, pour vous rappeler, c'est vraiment une carte là, qui va faire office dans tous les pays de l'Europe, ou en tout cas, la plupart d'entre eux, ceux qui y participeront, pour que les personnes soient reconnues, que leurs besoins soient reconnus un peu partout en Europe. Il va y avoir également une carte de stationnement qui va être accessible, où tous les stationnements en fait vont reconnaître cette carte-là, ce qui va permettre aux personnes de se déplacer plus facilement. Étant donné qu'on le sait, en Union européenne, changer de pays, changer de région, c'est quelque chose qui est très facile, mais ça peut devenir plus difficile pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on veut faciliter leur déplacement.
Parce que c'est ça, en ce moment, d'un pays à l'autre, c'est pas standardisé.
C'est pas standardisé, ça cause problème.
Et la reconnaissance du handicap et de pouvoir donc avoir accès aux services ou à l'aide nécessaire, c'est... Il y a des ratés, il y a des lacunes.
Oui, ça changeait d'un endroit à l'autre, ce qui était considéré ou pas comme un handicap, les services qu'on offrait et tout ça. On essaie de le rendre ça un peu plus standard, mais voilà, ce sera pour 2028.
Parce qu'il faut comprendre que les délais, finalement, parce qu'on était très enthousiastes il y a 3-4 semaines au moment du vote et de la promulgation de cette idée de la carte européenne du handicap. Les délais ont été annoncés maintenant. On parle de 30 mois pour que les États membres puissent adapter leur législation nationale. Alors, il faut que dans chaque pays, il y ait une volonté politique suffisante là, pour que les législations nationales soient mises à niveau. Et 42 mois, donc là, on parle de 3 ans et demi, pour que ces directives dans chaque pays soient appliquées. Alors, l'horizon qu'on espérait de 10 à 30 mois, donc, est plutôt passé de 30 à 42. On parle donc de 2028. C'est sûr que c'est trop long, mais déjà, enfin, c'est un
pas... On pourrait ne pas le faire du tout.
On pourrait ne pas le faire, voilà, c'est ça. C'est encore une fois, là...
Oui, voyez à quel point je suis
positif. Le verre est à moitié plein. C'est toujours mieux de voir les choses par le bon côté de la lunette. En parlant de sensibilisation, il y a, encore une fois, parce que c'est assez fréquent avec l'avenue des Paralympiques, ça a une très belle influence auprès de la sensibilisation des jeunes.
Oui, donc les jeunes au collège Pablo Picasso de Frousin ont pu pratiquer du sport pour les personnes en situation de handicap, donc du sport comme le boccia, le rugby en fauteuil roulant, le sessifoot, et donc vraiment se familiariser avec les enjeux des personnes en situation de handicap. Le sport est quelque chose de ludique, mais ça permet d'ouvrir la discussion par rapport à ça et de faire connaître un peu le quotidien des personnes en situation de handicap à des jeunes élèves, à des jeunes étudiants et de les sensibiliser à ce qui se passe pour leurs collègues en situation de handicap. Donc, on parle d'une classe de 5e qui est allée, qui a fait un dans le cadre du parcours laïque et citoyen, qui a donné lieu justement à différents échanges et aussi à des pratiques de sport d'équipe pour mieux se familiariser avec les conditions de leurs collègues.
Et quand on dit cinquième, dans le système français, c'est rigolo parce qu'ils partent de la 11e puis ils descendent vers la 1e.
Oui.
Et alors, en fait, leur 5e, c'est un peu comme notre 7. Voilà. Enfin, ça, c'est à Frousin, dans la Haute-Garonne. Alors, les Frousinois, hein, c'est les gens, c'est une petite communauté, on parle de 8-9 000 personnes. Alors, c'est bien parce que ça va faire tache d'huile. Souvent, c'est plus facile dans une petite communauté
Oui.
qu'une pareille initiative puisse frapper les esprits, faire la manchette locale et les gens s'y reconnaissent. Le boccia, oui, effectivement, c'est un peu comme la pétanque.
Oui.
C'est à peu près la même chose, en fait, en termes de règlement. Ça, on peut faire ça avec des fauteuils motorisés, ainsi
Mais
de suite.
c'est un sport qui est exclusif là, aux personnes en situation d'handicap.
D'handicap.
Il y a différents niveaux, Bastia. Donc,
oui.
Il y a des personnes qui sont en situation d'handicap plus légère et il y a des personnes qui sont en situation d'handicap beaucoup plus prononcée. Et les gens sont séparés par niveau pour que
D'accord.
ce soit équitable
Oui.
pour tout le monde.
Exact. Le ceci foot, bien ça, c'est si comme cécité, foot comme un football. Mais pas le football comme le Super Bowl. On parle de.
On parle du football à la française.
Exactement, donc ce qu'on appelle soccer chez nous. Là, à ce moment-là, il y a comme un grelot ou une cloche qui est à l'intérieur du ballon. Et ça, c'est une autre façon. Et le rugby en fauteuil, ça c'est du
Ça,
sport.
brave.
Oh!
Ça brave.
C'est aussi téméraire que le rugby traditionnel.
Oui.
C'est pas.
Sauf que de se faire écraser les doigts par un fauteuil, ça fait mal.
Oui, c'est ça. Il faut. Quand on joue au rugby en fauteuil, là, il faut pas hésiter, hein, on va dire ça comme ça. En France, toujours, cependant, dans le domaine de l'éducation, là, on arrive, c'est le revers de la médaille un peu, on en avait déjà parlé, on a de la difficulté à recruter des aides à l'enseignant.
Oui, en fait, on a de la difficulté à recruter des aides enseignants. C'est plus difficile maintenant là, pour les personnes qui ont des élèves en situation de handicap, donc des enfants en situation de handicap, d'avoir de l'accompagnement pour leurs enfants. Donc, ils vont faire des annonces sur les réseaux sociaux et sur Internet pour trouver un peu comme ici sur Kijiji, hein, pour
Oui.
trouver des gens pour accompagner leurs enfants. On est rendu là, François.
Oui, ben ça, c'est malheureux. Il y a des annonces placées par le gouvernement. Là, ils ont attiré très peu de candidatures. Encore une fois, c'est peut-être une question de salaire. Ce sera la pause obligatoire des 2 minutes, hein, comme au football.
Oui, voilà, exactement.
On se retrouve à 13h.
Tour avec François Beauregard.
Ben, on n'a pas fini notre tournée européenne. En France, entre autres, il y a des formations qui sont données.
Il y a des formations qui sont données pour l'ordre infirmier en France pour essayer d'avoir des meilleurs services pour les personnes en situation de handicap. On en a parlé, François, et c'est une réalité aussi au Québec. Les personnes en situation de handicap dans le système de santé ne sont pas traitées adéquatement. Souvent,
oui.
les cliniques sont mal adaptées, tout ça. Les personnes qui traitent ces personnes-là, donc là, on parle des infirmiers, mais on parle aussi des médecins. On parlait de gynécologues la semaine dernière.
Oui, ben, ils ont exactement la même problématique.
Ils sont très mal formés, ils sont un peu maladroits avec les personnes en situation de handicap. Ça cause clairement problème, évidemment, là, pour l'accessibilité aux soins des personnes en situation de handicap. Donc, en France, on a décidé de s'attaquer au problème, entre autres par la formation à l'ordre infirmier pour essayer justement de mieux sensibiliser les infirmiers, les infirmières à la situation des personnes en situation de handicap.
Et là-bas, comme ici, ben ils font le constat que la population des personnes en situation de handicap ne fera qu'augmenter.
Oui, ça augmente, évidemment, François, un peu comme ici, entre autres à cause du vieillissement de la population. Et donc,
oui.
Les besoins sont de plus en plus importants. Et pourtant, on a beaucoup de difficultés à répondre à la demande au niveau à la fois de l'accessibilité, mais aussi au niveau des soins qui sont donnés, du contact humain, qui n'est pas toujours adéquat.
La sensibilisation. En fait, il y a l'accessibilité des lieux ou des plateaux d'examen, hein, on parlait des examens gynécologiques tout à l'heure, ou ça peut être la radiographie aussi,
oui.
ça peut être très pénible.
C'est sûr que quand on n'est pas capable de monter sa table, ça commence mal.
Oui, exact, ou des examens en radiographie, là, ça peut être très pénible ou sans adaptation, pratiquement
oui.
parfois impossible. Et donc, il faut aussi sensibiliser les êtres humains
oui.
à la façon dont on accueille.
Parce que des fois, voilà, sans vouloir mal faire, c'est très maladroit. Il y a des questions qui sont posées, qui ne devraient pas être posées, et genre des préjugés aussi
oui.
Sur la vie de ces personnes-là. Et donc, souvent, ça peut rendre les patients très mal à l'aise et donc faire en sorte qu'ils ne se présentent pas à leur rendez-vous ou qu'ils ne prennent pas les suivis adéquats parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ça. Ils savent que ça va être une journée difficile.
Oui. Puis encore, il y a la question du transport pour s'y rendre.
Oui, bon.
Oh là là! Alors ça, c'est ça fait beaucoup. Hein? On n'ira pas plus loin. Mais hein, on a vraiment une revue de presse en damier, hein?
Oui.
Le bon, le mauvais.
Je suis comme ça, François.
Voilà.
J'essaie de ne pas vous déprimer, François.
Il y a des bonnes choses qui se passent au Théâtre du Châtelet.
Oui, allons à Paris, François, où on va tester, donc, les lunettes en réalité augmentée à l'Opéra.
Ouh!
Ça va permettre aux personnes, évidemment, qui ont des difficultés visuelles de pouvoir apprécier un spectacle. Donc, du 2 au 22 février, les lunettes en réalité augmentée sont offertes au public. Il y a aussi une audio description et une traduction en ligne
en langue des signes
française. Langue des signes française, oui. Qui va permettre non seulement comme je le disais donc aux personnes qui ont des difficultés visuelles, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés au niveau de l'audition. De pouvoir apprécier un spectacle et les lunettes là, sont aussi données à des gens qui n'ont pas de prêtées plutôt à des gens qui n'ont pas d'handicap qui veulent juste tester le processus et donc c'est jusqu'au 22 février ça va être disponible là. Ils veulent voir si comment c'est reçu et éventuellement on espère être capable d'avoir ce type d'équipement là à long terme au théâtre.
Ben oui, parce que c'est l'opéra de Mozart Così fan tutti qui va être présenté. Alors déjà, sans aucune barrière à l'accessibilité, d'écouter un opéra chanté en italien quand on n'est pas italien.
Il y a une
italien.
Barrière de langue pour la plupart des Français, là.
Oui, ben c'est ça. Alors, mais donc, c'est des lunettes qui ont été, entre autres, conçues par Epson et portées avec qui ont le logiciel Panthea. Panthea, c'est un peu comme Panthère, P-A-N-T-H-E-A. Qui est une société spécialiste de l'accessibilité culturelle à Lille. Donc, on va voir les dialogues en temps réel. On peut sélectionner la langue de son choix. Encore une fois, langue des signes, français, anglais, la taille du texte, la police, la couleur. Et tout ça, donc, est comme en surimpression devant soi, en même temps qu'on regarde ou qu'on peut voir ce que l'on peut sur la scène.
Donc, c'est quand même très complet, François.
Ouais,
et, comme vous le dites, évidemment, c'est une grande avancée pour les personnes qui se sentent handicap, mais ça peut aussi servir à des gens qui n'ont pas d'handicap, mais qui veulent comprendre quelque chose pendant ces 3 heures d'opéra.
Oui, 3h40, c'est presque...
3h40, oui.
C'est presque aussi long que le match d'hier.
Oui.
Voilà. donc, et ça, c'est vraiment intéressant. On sait qu'Apple vient de sortir ses lunettes de réalité virtuelle. Là.
Oui.
C'est comme leur dernier gadget. Peut-être que bientôt, on aura tous ces lunettes-là au bout du nez.
Ça semble se démocratiser. Il y a plusieurs compagnies qui en font.
Exactement. Nous allons revenir chez nous. Et non seulement on va revenir chez nous, on va aller de l'autre côté.
Oui, on fait un petit arrêt.
D'un océan à l'autre.
On fait un petit arrêt à Saskatchewan, à François, tant qu'il y a.
On s'en va. Il y a une réduction des services. Oui.
Dans la localité donc de Prince Albert, en Saskatchewan, il y a des services qui vont être coupés là, pour le transport adapté, on en parlait tout à l'heure, pour le transport adapté pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à cause d'un manque de financement, évidemment. C'est toujours le nœud de la guerre, donc on va supprimer des services le week-end et le soir pour les personnes qui ont besoin du transport adapté. Évidemment, les personnes qui défendent les droits des personnes en situation de handicap sont évidemment très mécontentes de ça, étant donné que c'est un droit de se déplacer le soir, la fin de semaine et quand on le veut. Et donc, il y a des personnes qui vont être contraintes de rester à domicile, de manquer des activités sociales.
Et les besoins là-bas explosent. On parle en 2023 de 37 000 et plus de déplacements qui ont été organisés. Et c'est 11 000 de plus que l'année d'avant. Donc, on est passé de 26 à 37 000 déplacements. Et pourtant, le budget ne bouge pas.
Oui, et donc, on a un déficit là, de plus de 100 000 $ qu'il faut combler. Évidemment, comme le déficit n'est pas comblé, ben on va couper les services.
Ça, oui, voilà. Alors, pas de loisirs, pas de visite avec la famille. C'est pour les rendez-vous médicaux, ce genre de choses-là,
oui,
juste
ben
le week-end,
bon, hein, de
le
toute
soir.
Façon, quand est-ce que les personnes en situation d'handicap ont besoin de loisirs?
Ben, bonne question. Non, on est cynique, mais on ne devrait pas l'être. Mais des fois, là, ça fatigue. Ah. Parlons d'adaptation. On va revenir plus près de chez nous. Trois-Rivières.
Oui,
La ville de Trois-Rivières, c'est magnifique, le centre-ville historique de Trois-Rivières.
C'est très beau, Trois-Rivières, et on va s'attaquer à l'accessibilité à Trois-Rivières parce qu'on va enlever les terrasses qui sont scindées, qui occupent tout le trottoir.
Oui.
Ces terrasses-là étaient autorisées depuis la pandémie. On se rappelle là, que pendant la pandémie, les restaurants, pendant un bout de temps, devaient fermer ou à tout le moins réduire. Il y a capacité à l'intérieur pour y laisser des déplacements et un certain nombre de mètres distance entre les clients. Et donc, on avait offert aux personnes de pouvoir mettre une terrasse qui dépassait sur le trottoir et sur une partie de la rue pour que les personnes qui ont des restaurants puissent accueillir des gens et évidemment ne pas tomber en difficulté financière. Par contre, on se rend compte que ce type de terrasse-là, pour les personnes qui sont en situation d'handicap, particulièrement en situation d'handicap physique, c'est très difficile parce que...
C'est encombrant.
C'est très encombrant. Il n'y a plus de place.
Il faut aller dans la rue. Il faut se coincer entre les autos qui sont déjà stationnées puis un petit bout de trottoir où, évidemment, il y a toujours un lampadaire ou un pot de fleurs.
Toujours.
Et là, il y a cet été, donc, à Trois-Rivières, il y a eu une réglementation municipale. Elles seront scindées en deux sections. Donc, il devrait y avoir un corridor de 1,20 m. 1,20 m, là, c'est pas énorme.
C'est pas énorme.
C'est 48 pouces. Et même un peu moins pour les personnes... c'est moins que 48 pouces. C'est 40 pouces pour les personnes à mobilité réduite. Alors là, il faut évidemment que le fauteuil rentre tout juste. Soyons pas naïfs. Souvent, cet espace libre sert à mettre une pancarte ou les genres de petits tableaux noirs à la craie qui sont comme des
qui annoncent le menu, là, oui.
Ah oui, ça fait chic, ça fait bistrot, mais pour donner des coups de pied dedans, c'est champion. ça, je peux vous le dire.
Comme quelqu'un qui connaît ça.
Oui, ben on a déjà donné des coups de pied dedans. Alors, au cours des trois dernières années, la ville avait fourni des rampes d'accès mobiles aux restaurants, et le personnel des restaurants devait... les utiliser pour aider quelqu'un à mobilité réduite, par exemple quelqu'un en fauteuil, pour rentrer. Mais là, encore une fois, c'est une question d'habitude. Pourquoi la rampe n'est-elle pas permanente? Parce que là, d'attraper au vol
un serveur
en disant « Ah, oh, votre rampe! » Lui, il a les mains pleines de plats.
Et toi, tu es obligé d'attendre
15-20
minutes.
Qu'il mette sa rampe.
Et c'est pas super pour l'autonomie, puis on se sent un peu infantilisé dans tout ça, donc c'est pas la solution la plus intelligente pour l'autonomie des personnes en situation de handicap.
Ben, il y a le restaurateur Danny Bruno, qui est le propriétaire du restaurant qui s'appelle La Maison de Débauche, hein? Ça donne le goût d'y aller, a appliqué la nouvelle configuration dès l'été dernier, et lui trouve que ça se passe très bien. Bon, ben, c'est bien que ça donne... Un exemple assez collègue aux autres propriétaires.
Restaurateurs, oui. Donc, on va espérer, François, que ça aide un peu les choses. C'est pas parfait, encore une fois, mais il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin de part et d'autre pour que tout le monde puisse vivre ensemble.
Exact, et d'être capable d'accueillir le plus grand nombre de clients possible. Parce que quelqu'un qui est bien accueilli dans un établissement qui est accessible va avoir tendance à y retourner.
Oui, c'est sûr.
Parce que là, on sait que la question de l'accessibilité ne sera pas un problème. Plutôt que, des fois, on veut pas comme... Des fois, ça nous fait plaisir où on a l'esprit plus aventureux. Puis on se dit, ben on va aller voir si là-bas, c'est accessible.
Mais bien souvent,
on choisit nos restaurants qui sont accessibles, puis je vais y retourner.
On choisit nos restaurants en fonction de l'accessibilité pour éviter d'avoir tout un cauchemar en arrivant, là, parcours du combattant.
Tout à fait.
Donc, effectivement, les personnes en situation d'handicap, là, on pense à ça avant de se déplacer.
Oui, et on devient donc des clients loyaux, hein, fidèles. À Vaudreuil-Dorion, ben là, c'est une initiative de toute la municipalité.
Oui, un plan d'action à l'égard des personnes en situation d'handicap qui a été pris, qui a été soumis donc le 5 février au conseil municipal. Ça a été adopté donc pour 2023-2024 Et ça va permettre de mettre en place différentes choses pour les personnes en situation d'handicap pour favoriser, encore une fois, l'inclusion. Donc, parmi les mesures adoptées, on parle de l'accueil de personnes en situation d'handicap avec des besoins particuliers
Oui.
lors des cours de natation, pour l'achat de livres audio à gros caractères aussi qui vont être disponibles. Des trousses de stimulation pour les personnes vivant avec un handicap qui vont être aussi disponibles à la bibliothèque et aménagement d'aires de jeux accessibles, de tables de pique-nique accessibles aussi qui vont permettre d'accueillir des fauteuils roulants. On va aussi faire attention dans les parcs pour que les
Oui.
fauteuils roulants puissent se déplacer facilement et on va avoir des constructions de pistes cyclables à
Oui, ça c'est bien.
accessibilité
Ben,
universelle.
on a parlé des pistes cyclables plus tôt dans l'émission. C'est important que les pistes soient accessibles parce que souvent les pistes, c'est juste comme une autoroute.
Oui, un demi-corridor, pas très large.
Et pas très large et pas toujours accueillant ou sécuritaire. Alors, c'est important d'avoir l'accessibilité
Et on
universelle
va pouvoir prêter
à
du
l'esprit.
matériel de plein air aussi aux personnes qui veulent faire du sport adapté
L'hiver, oui.
l'hiver.
Bravo. Ben après la pause, on revient à Montréal. Hein? À Montréal, ben voici une 27e station.
Oui, une 27e station qui est adaptée universellement accessible pour le métro de Montréal. On parle de la station d'Iberville,
D'accord.
qui devient donc, vous l'avez dit, la 27e. Malheureusement, évidemment, il y a du chemin à faire encore, mais on a quand même quelques chantiers qui sont débutés pour le métro de
Oui.
Montréal. Et puis bon, on en a 27. C'est 27 de plus que zéro, vous me direz?
Voilà. L'annonce donc de la mise en service de trois nouveaux ascenseurs à la station d'Iberville, faisant ainsi de cette station la 27e universellement accessible du réseau du métro. Ben, ça bénéficie évidemment pas juste aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles, dis-je, mais également aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs. Voyageurs, ça, c'est parce qu'ils sont encombrés de valises,
Oui, quand on essaie de monter les grosses valises
Non, dans les escaliers,
dans les
c'est...
escaliers, surtout en
Voilà.
heure de pointe, quand tout le monde passe, ça peut
Oui,
être un peu
c'est...
difficile.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ben bravo, c'en est une de plus. Et on espère parler bientôt de la
Oui,
28e.
voyons, on attend la prochaine avec impatience.
Si vous avez la carte plastifiée vous donnant droit à l'accompagnement gratuit pour vos déplacements en transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal, on parle de bus, de métro, de train, du REM quand le REM est là.
Quand il fonctionne, oui.
Dans les journées impaires. Non, sans blague, le
Et
REM,
encore, et
la
encore.
navette fluviale, ça c'est quand il n'y a pas de glace. Et donc, la carte plastifiée a été mise à niveau.
Oui.
Cette carte-là, il faut le dire, ça permet à quelqu'un qui nous accompagne de ne pas payer
Oui, ça permet aux
d'une
personnes
accent.
donc d'avoir un accompagnateur qui est gratuit pour faciliter les déplacements, parce qu'évidemment, là, c'est pas tous les endroits qui sont accessibles, c'est pas toutes les stations de métro qui sont accessibles non plus. Donc malheureusement, on peut avoir besoin d'un peu d'aide.
Exact, où la signalisation peut ne pas être
Adéquate.
adéquate. Et si on va dans une station à laquelle, si on fait un parcours avec lequel on est familier, où on
Ça va
connaît les
quand même
stations,
bien, oui.
ça va pas trop mal. Mais si on est en train de découvrir une nouvelle station de métro, par exemple, et qu'on est handicapé visuel, ça peut poser problème ou avec d'autres difficultés fonctionnelles. Alors, cette carte-là est très précieuse. Eh bien, apprenez que la mise à niveau de la carte d'accompagnement vous donne droit à tous ces avantages, vous donne droit à votre accompagnateur, accompagnatrice. La carte que vous possédez présentement sera remplacée par une carte Opus. Hein?
Oui,
Oh!
et donc vous avez jusqu'au 31 mars 2024 pour faire le changement. Après cette date, la carte plastifiée que vous avez en ce moment ne sera plus
Ça va
acceptée.
faire au guichet. Ça, c'est pas drôle. Moi, j'avoue que dans le communiqué, il était question sur le site de dire comment procéder. Et sur le haut de cette page, cliquez sur l'onglet Avant de partir. Eh bien, je vous dirais que sur cette page, il n'y avait pas d'onglet Avant de partir.
J'ai pas remarqué, François.
Moi, j'ai fait l'expérience et franchement, je l'ai essayé à toutes sortes de résolutions en me disant peut-être que ma résolution est trop grosse, qu'il y a une partie de l'écran qui m'échappe. Et puis, je l'ai réduite, réduite, réduite. J'ai demandé à quelqu'un qui voit mieux que moi. Et alors là, parce que ça dit, dans la page où l'annonce de la mise à niveau de la carte est rendue publique, Tout ça, c'est marqué, donc, cliquez sur l'onglet « Avant de partir ». Et l'onglet « Avant de partir », ben moi, je ne l'ai pas trouvé. Et si vous le trouvez, bravo, faites-nous en part.
Oui, voilà, vous nous appellerez sur notre ligne ouverte. Voilà.
Et là, une fois que vous l'avez trouvé, vous descendez jusqu'à la rubrique « Carte d'accompagnement ». Ben là, je peux comprendre que là, toute la démarche va être expliquée, savoir comment procéder pour faire renouveler la carte pour éviter une déconvenue au 31 mars. Mais enfin, peut-être c'est ma petite expérience empirique.
Je ferai l'expérience. Je vous reviens à dessus.
Ouais, si je suis dans l'erreur, ben on demande à quelqu'un de la STM de corriger ma perception. Là, je veux pas jeter du fiel lorsque ce n'est pas mérité. Voilà.
Au pire, on peut toujours appeler au niveau de, oui, du service à la clientèle là, pour les personnes qui, comme François, ne trouvent pas le bon
lien. Qui trouvent pas le bon onglet.
Mais
voilà.
je vais faire un suivi là-dessus, François.
Ben, c'est gentil. Aujourd'hui, on vous souligne que février est aussi le mois de la dégénérescence maculaire. L'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, l'AQDM, souligne que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, explique 90% des nouveaux cas de cécité au Canada. C'est énorme, ça?
C'est énorme.
90%. Et ça, évidemment, c'est encore une fois relié en grande partie avec le vieillissement de la population. Et ce sera tout le mois de février, ce sera le mois de la dégénérescence maculaire. Et nous aurons le plaisir, d'ailleurs, un peu plus tard, au cours des prochaines semaines, d'accueillir ici, à notre antenne, un spécialiste de la question de la dégénérescence maculaire, un chercheur qui va nous parler de toutes les avancées qui sont maintenant là, sur les tables à dessin ou sur les tables de laboratoire. Alors, on va pouvoir en parler davantage. Alors, ça, c'est fort bien. À l'occasion de la semaine de la canne blanche, l'Association québécoise de joueurs d'échecs handicapés visuels. Avez-vous déjà vu des matchs d'échecs?
Non. Ah, ben ça. Je vais aller sur YouTube tout à l'heure.
C'est spectaculaire. L'AQJE, accent aigu, HV. Hein? Les joueurs d'échecs qui vivent avec une déficience visuelle ont, on peut l'imaginer, une capacité de conceptualiser ou de comprendre un jeu.
Moi, je ne suis pas capable des yeux ouverts, François.
Ah ben moi, je m'en tiens généralement au tic-tac-toe.
Oui, voilà,
oui,
moi
oui,
aussi.
Où on sait que le secret, c'est de mettre le X dans le coin.
Toujours.
Toujours, voilà. Sans blague. Alors, l'association et ces gens-là sont très forts. L'association de la semaine de la canne blanche, l'Association québécoise des joueurs d'échecs de la canne blanche, a dévoilé au cours de la semaine dernière son tout nouveau site web conçu autant pour le grand public que pour les joueurs aveugles et malvoyants. Alors, avec ce site-là,
ben, ça va... Est-ce qu'ils ont des adaptations sur le jeu d'échecs?
Oui, tout à fait. Ça, c'est important.
Parce que je me disais, reconnaître un fou, c'est pas si pire, mais reconnaître les pions...
les pions sont tous semblables, sauf qu'il faut évidemment être capable de les situer sur l'échiquier, là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Bon, je vais regarder ça.
Voilà. Ben ça, c'est tout pour aujourd'hui. Élisane, on vous rappelle vendredi prochain au Théâtre du Rideau Vert, la représentation de la machine de Turing qui est pleinement adaptée. Et si vous voulez y participer avec une audio description, bien, vous n'avez qu'à appeler et réserver votre place s'il n'est pas trop tard. On tient à remercier Claire Guérin à la recherche, Mathieu Tessier qui fait plein de choses. Mais parfois, on est surpris de tout ce qu'il peut faire.
Ah, il fait tout.
Ah, hein? C'est pas croyable. Alors, merci Mathieu. Élisane, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, j'essaierai de vous trouver des nouvelles positives.
Ah, bien, c'est les meilleures, mais des fois, il faut appeler un chat. Bon. Hein, des fois, c'est comme ça. François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.